France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quelle place, quel droit, quelle responsabilité pour les beaux-parents? La question revient de manière récurrente, mais pour l'instant, la loi n'est pas parvenue à l'aborder de manière sereine, on va dire. Il faut dire que le sujet est sensible. Il n'est jamais facile de se retrouver dans le rôle du beau-parent, pas facile non plus d'arriver avec un ou une nouvelle compagne quand on a déjà des enfants, et quand il ou elle en a aussi. Pas facile de s'entendre dire « t'as rien à dire, t'es pas mon père, tais-toi, t'es pas ma mère ». Pas facile pour l'enfant non plus d'accepter l'autorité du nouveau venu. La vie dans une famille recomposée n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Pourtant, cela concerne de plus en plus de monde. D'après l'INSEE, il y aurait 720 000 familles recomposées en France, 1,5 million d'enfants concernés, soit un mineur sur 10. Alors ce soir, on ouvre le débat, d'abord sur le fait de savoir s'il faut vraiment légiférer sur le sujet, ensuite sur le fait de savoir quelles sont les urgences dans ce domaine. Avec nous, pour en parler, le psychiatre Serge Effèze, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonsoir Serge Effèze.
Bonsoir.
Je rappelle que vous avez publié La Fabrique de la Famille, c'est chez Kéro, c'est bien ça. Marilus Jovan Cheno, fondatrice du Club des Marâtres, qui propose des groupes de parole, entre autres, aux beaux-parents en souffrance. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes co-auteur de Belle-mère ou Marâtre, c'est aux éditions de l'Archipel.
Absolument.
Et le juge Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, qui est resté avec nous et qui vient de publier, on le rappelle, Rendre justice aux enfants, c'est aux éditions du Seuil. Rebonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Rosenzweig. Et puis bien sûr, on attend vos appels à vous tous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel, celui d'Aline. Elle est en ligne de Brest. Bonsoir Aline.
Bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Eh bien, je ne vais pas reprendre le propos du jour. Moi, je me posais la question de savoir comment, non pas s'imposer parce que ce n'est pas la question, mais trouver sa place, effectivement, gentiment, doucement. Mais la grande difficulté, c'est si le parent lui-même ne permet pas cette fameuse place qui est vraiment très, très difficile, délicate, voilà, et qui hiérarchise lui-même, en, comment dire, dans les faits, hein, dans les dires, dans les faits, mes enfants sont prioritaires, etc., etc. Bon, moi, il se trouve que je n'ai pas eu affaire à des petits-enfants, hein, les mais des jeunes femmes, quasiment, hein, 17 et 22 ans, bon. Donc, c'était difficile, c'était presque des adultes. Et d'arriver comme ça dans leur vie, bon, l'acceptation était dure, mais lui n'a pas du tout, comment dire...
jouer le jeu.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas permis, il n'a pas expliqué aux uns, aux autres. Quand il trouvait que j'étais trop, il me disait, ben non, il vaut mieux que tu restes pas, en clair, quoi. Bon.
Alors, petite question, Aline, si je peux me permettre, ça, c'est le vécu. Est-ce qu'il y a eu des soucis au quotidien, des barrières juridiques, des problèmes de procédure dans la vie quotidienne?
Non, puisque nous n'avons ni été mariés, ni etc. Mais bon, voilà, on n'y tenait pas. Mais par contre, c'est au niveau de la vie commune, enfin, voilà, où c'était vraiment très difficile.
Voilà, c'était pas simple. Un grand merci. Peut-être une question, Aline, pour conclure.
Pardon ?
Une question ? Non, pas de question. C'était une entrée en matière.
Une réflexion que je voulais compléter. Moi, je suis maman et j'ai vécu la même chose. C'est-à-dire que dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai eu des compagnons et par contre avec ma fille, j'ai vécu ça autrement. C'est-à-dire que j'ai imposé, entre guillemets, quand je dis imposé, c'est vraiment en douceur, et à mon compagnon et à ma fille, non, vous n'avez pas le choix, ni l'un ni l'autre, je vous aime tous les deux, donc il faudra faire comme ça.
Merci beaucoup Aline pour cette entrée en matière. On voit que les choses ne sont pas simples. Qui souhaite réagir en premier? Serge Effèze peut-être?
Oh, je veux bien réagir parce que le témoignage d'Aline, c'est ce que j'entends et ce que je vois toute la journée avec la plupart des familles que je reçois et qui sont dans ces situations de recomposition. Et elle dit très justement les choses, c'est-à-dire qu'une recomposition, ça ne peut marcher que si les adultes jouent le jeu. ensemble, c'est-à-dire si les adultes jouent le jeu de la coopération, de la coparentalité, de la coordination, et non pas celle de la rivalité, celle des conflits de loyauté, celle de tu dois choisir entre lui et moi, entre moi et elle. Cette image de la marâtre de nos contes d'enfants qui est forcément la rivale de la mère, je crois qu'elle a fait long feu aujourd'hui et qu'il s'agit de proposer d'autres images, d'autres représentations. Et on entend bien dans le témoignage d'Aline qu'elle s'est trouvée face à un homme qui malheureusement n'arrivait pas à sortir d'un conflit de loyauté entre ses filles et sa nouvelle compagne, et que ça ne peut que attiser le feu.
Marilus Jovan Chesneau, vous êtes fondatrice du club des marâtres.
Oui.
C'est un terme choisi à bon escient.
Tout à fait.
Le témoignage d'Aline,
c'est celui aussi. Alors
vous entendez tout le temps.
Oui, dire la même chose. Effectivement, c'est quelque chose que j'entends très fréquemment. Mais il y a une deuxième chose que je note dans le témoignage d'Aline, c'est qu'il y a une différence quand on est un beau-père et quand on est une belle-mère. Et celle-là, je pense que elle est très notable, parce qu'effectivement, là, le rôle de l'un et de l'autre, des deux parents dans la famille, n'est pas aussi clair et pas aussi facile. Et c'est vrai qu'on a un peu plus de chance, si j'ose dire, quand on est un beau-père, de trouver une place que quand on est une belle-mère. Les pères ayant, alors je ne vais pas tous les mettre dans le même sac, mais ayant plus de difficultés à effectivement imposer, se trouver eux, se revendiquer en tant que père, trouver leur place et trouver la place de leur compagne.
Jean-Pierre Rosenseck, on va parler dans quelques instants des droits, des devoirs, mais sur la façon de vivre ces familles recomposées, vous, dans votre cabinet de juge, qu'est-ce que vous entendiez ?
J'ai entendu souvent la phrase que vous avez citée, « Quittez-toi, t'es pas mon père, ferme ta gueule », en langage très direct. Hein. Quand le beau-père était là, qui avait élevé le gosse depuis 10 ans, gère comme ses propres enfants et qui se retrouvait confronté à la crise d'adolescence pour X raisons. Donc effectivement, j'aurais rebondir sur votre introduction et sur ce qui a été dit, y compris par Serge et par Madame. Je pense que c'est un problème majeur actuellement de la société française. Vous avez dit 1 500 000 enfants, mais ça veut dire 1 500 000 enfants, ça veut dire 1 500 000 pères, 1 500 000 mères et 1 500 000 beaux-pères ou belles-mères. Ça fait, moi je pense que c'est 2 millions.
Ça fait du monde, quoi.
Ça fait 8 millions de personnes, ça fait 12% de la population. C'est un enjeu politique majeur et ça rejoint la question sur la loi. La loi, elle n'est pas seulement là pour gérer des problèmes, la loi, elle est aussi là pour créer le climat de l'exercice des responsabilités. Il doit être dit de manière ferme aux 20h à la télé, que toutes les personnes qui
ou à la radio,
ou à la radio,
excusez-moi, non mais d'accord,
au téléphone sonne, il doit être dit, le langage, il doit être le suivant.
Même pour la télé dans ce pays.
J'entends bien. Il doit être dit que celui qui vit avec un enfant est en charge, en droit et en devoir, d'exercer les actes de la vie quotidienne le concernant, ce qui ne veut pas dire exclure le père biologique ou la mère biologique. Il faut légitimer le fait que beau-père et belle-mère sont en droit d'exercer des responsabilités. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de statut. Je parle de l'exercice des responsabilités.
C'est un mot qui fait peur, c'est ça ?
C'est un mot parce que le mot statut est statufiant, c'est-à-dire il est rigidifiant. Et immédiatement, on tombe dans le piège, c'est les droits des beaux-pères contre les pères. Non, c'est tout. C'est les droits des enfants d'avoir un beau-père, une belle-mère, un père et une mère, des grands-parents qui exercent leurs droits et leurs responsabilités. Avec la question qui est, qu'est-ce qui relève de l'un ? Qu'est-ce qui relève de l'autre ? Je vais en 20 secondes prolonger une de la question que vous posiez, parce qu'elle n'a pas répondu, l'auditrice, sur les actes de la vie quotidienne. Et nous en parlions tout à l'heure. Quand vous êtes beau-père ou belle-mère, vous n'êtes rien aujourd'hui. Quand vous allez chez le médecin pour faire soigner banalement un gosse qui a un problème, le médecin a le droit de vous dire « secret professionnel » et « je n'ai rien à vous dire ». Donc il faut que ça soit légal que de pouvoir accompagner son enfant chez le médecin, non pas une opération grave, hein, bien évidemment, je ne parle pas d'une opération du cœur, de trucs, etc. Mais pour les actes de la vie courante, il faut légaliser droits et devoirs des beaux-parents.
Alors justement, il y a Sylvie qui nous appelle, qui va dans ce sens. Sylvie, non, qui est en Ardèche. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Je suis médiatrice familiale et je voulais témoigner du fait que dans l'exercice de ma pratique, la question se pose souvent de savoir ce qu'ont le droit de faire précisément les beaux-parents. Quels sont les actes usuels, à l'heure actuelle, en l'état actuel de la loi, que les beaux-parents ont clairement le droit de faire ?
Alors vous avez tous envie de répondre. Merci mille fois Sylvie pour cette question. Là, ils veulent tous répondre en même temps, donc on va falloir mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Jean-Pierre Ozensé, je vous promets que je vous donne la parole dans une seconde. Marilus Jovan chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la...
Rien. On n'existe pas. On a un devoir vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire qu'on a quand même un petit peu l'obligation de les recevoir, puis de faire un petit peu attention à eux, puis éventuellement de leur faire un peu à manger. Mais on n'a aucun droit.
Légalement, le beau-père n'existe pas. Non, je prononce simplement. Oui. Et c'est tout le combat depuis 20 ans. La classe politique française n'a pas été capable de traiter. Il faut dire pourquoi. Parce que derrière, c'était le gouvernement Sarkozy avec Mme Morano, c'était la crainte de voir monter l'homoparentalité. Et la gauche au pouvoir, c'est qu'elle s'est pris les pieds dans le tapis en faisant voter trop rapidement la loi sur le mariage pour tous, qui l'a décrédibilisée pour faire le reste. Résultat concret, 1+1=2, depuis 20 ans, ce problème des responsabilités au sein de la famille recomposée n'a pas été traité. Résultat concret, les gens font du... Ils bricolent. Mais on peut pas bricoler. Les gamins sont dans un rapport de force parce qu'ils disent effectivement au beau-père, va te faire voir.
Oui. Mais il faut bien voir que c'est tout un système de représentation qui est à changer. C'est-à-dire que quand on voit quand même que la moitié de la France descend dans la rue avec des banderoles qui disent un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. Je pense qu'ils n'ont pas la notion de ce que ça implique. Alors évidemment, eux, ils luttent contre l'homoparentalité, ce qui est leur droit. Mais un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins, ça touche des millions d'autres familles, celles dont on parle aujourd'hui et qui sont des familles recomposées dans lesquelles les enfants ont deux pères et deux mères. Alors, ils ne s'appellent pas père et mère, papa tous les deux, ils ont des noms différents, mais il n'empêche que deux pères doivent et peuvent exercer une fonction paternelle auprès d'un enfant à des moments différents, et que plus ces pères vont collaborer dans l'exercice de cette fonction paternelle, plus ça va être épanouissement pour l'enfant. À partir du moment où on dit pas un de plus, pas un de moins, ça veut dire qu'on met en rivalité, forcément, dans notre système de représentation sociale, l'ensemble des parents qui ont à s'occuper d'un enfant.
Marilus, Jovan.
Oui, je voulais revenir quelques instants, parce qu'on parle beaucoup des pères, mais... Les mères et les belles-mères sont là aussi, et c'est vrai que la difficulté que peuvent rencontrer certains pères, mais je ne connais pas d'association de mères qui défendent leur droit à exercer leur droit sur leurs enfants, donc s'il y en a une qu'on me le dise, eh bien cette difficulté, elle existe quand même aussi, et beaucoup pour les belles-mères, d'autant que les belles-mères sont dans la sphère privée. Elles touchent à des rapports avec les enfants qui sont de l'ordre de la sphère privée, peut-être beaucoup plus que les beaux-pères. Et donc, il y a des difficultés qui sont rencontrées spécifiquement par les femmes dans cette relation et dans cette position familiale que les hommes rencontrent. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de difficultés, mais de manière différente.
Jean-Pierre,
si vous me permettez, en entendant ce que vous dites et qui est vrai, moi, je pense qu'il faut se poser du côté des jeunes, des enfants. Parce que, Serge le sait, quand ils pètent les plombs, soit contre eux-mêmes, le suicide, toutes les formules suicidaires, soit dans la délinquance, quelque part, il y a effectivement les signes d'un malaise. Il y a un malaise parce qu'ils ne se sentent pas protégés par les adultes, et ils ne se sentent pas protégés par les adultes parce qu'ils ne savent pas quel adulte doit faire quoi et comment. Donc c'est une mission politique majeure que de clarifier la responsabilité, on va dire père et mère, mais mère, mais, père et beau-père, mère et belle-mère, si vous voulez. Moi, je ne fais pas je suis pas sur l'approche sexuée.
Et la clé de répartition... C'est ce qu'on appelle sur le plan psychique un conflit de loyauté. Conflit de loyauté, ça veut dire que les mômes, ils sont coupés en deux à l'intérieur d'eux-mêmes pour savoir quel clan ils doivent suivre, à quel clan ils doivent s'affilier, quelle est leur vraie famille, quelle est la jouer une famille contre une autre, et ils épuisent toute leur énergie à jouer un père contre l'autre, une mère contre l'autre, au lieu de vivre leur vie normale. Alors,
mais est-ce que la loi peut résoudre un problème pareil?
Je vais vous expliquer, en 20 secondes.
Jean-Pierre Rosenstein.
Bêtement simplement, on s'est battu pendant 30 ans pour faire en sorte que les deux parents biologiques soient égaux en droit et en devoir le temps de l'union et le temps de la désunion. C'est ce qu'on a appelé la coparentalité. Désormais, avec les recompositions familiales, il faut traiter les droits du père et de la mère biologique et dans le même temps, les droits et responsabilités du beau-père et de la belle-mère. Et il y a une clé de répartition, parce que c'est pas pareil, le père biologique et le beau-père, c'est pas la même chose. Et la clé de répartition, elle est simple. C'est à celui qui vit quotidiennement avec l'enfant les actes de la vie courante. Et ça nous renvoie, qu'est-ce que c'est qu'un acte de la vie courante? Accompagner un enfant à l'école, l'accompagner chez un médecin, c'est un acte de la vie courante. En revanche, le saut en parachute ou l'orientation scolaire, c'est pas un acte de la vie courante. Eh bien, cette clé de répartition, acte de la vie courante et acte important, nous l'utilisons d'ores et déjà dans la situation, je dis nous, les juges pour enfants, dans la situation des enfants qui sont confiés à l'aide sociale enfance. Les parents ne sont pas déchus. Donc les parents ont les droits fondamentaux sur l'orientation scolaire et l'aide sociale à l'enfance à les actes de la vie courante. C'était simple. On s'est pris les pieds dans le tapis une nouvelle fois avec la loi API, autorité parentale.
Mais alors justement, il y a eu quand même un morceau de loi qui a été adopté
elle était tellement mauvaise qu'elle est pas allée au Sénat.
Adoption du mandat d'éducation quotidienne. Marie-Luce Iovanceno, ça donne quoi cette affaire ?
Dans le pays de Mickey. Donc je vais expliquer très brièvement ce que c'est. On imagine que donc les parents biologiques, qui s'entendraient tellement bien, iraient donc ensemble chez le juge aux affaires familiales, décider tous les deux que le compagnon ou la compagne de l'un ou de l'autre puissent obtenir une délégation d'autorité parentale.
Et ajoutons même parfois chez un notaire.
Oui, oui. C'est-à-dire, en plus, oui.
Il faut avoir l'accord du père,
c'est ça.
Du beau-père, mais il faut avoir l'accord de tous les adultes.
C'est ça.
Le mettre par écrit.
Oui.
Et aller ensuite chez un notaire ou chez un juge. Mais c'est alors qu'il y a une solution simple que nous proposions avec Dominique Youf, qui vient de décéder malheureusement ces jours-ci, dans le rapport que nous avons fait, que nous avons commis pour le ministre de la Famille, nous disions en une phrase le problème
peut être géré. C'est pour Dominique Bertinotti, c'est ça.
Comme Napoléon est venu dire, on est responsable des choses qu'on a sous sa garde. Il fallait prendre une phrase simple. Toute personne qui vit habituellement avec un enfant est en droit et en devoir d'exercer les actes de la vie quotidienne. Point barre. Si on met ce texte, il est 18 mots, on le vote et immédiatement on légalise toute une série de pratiques. Alors bien évidemment, acte de vie quotidienne, acte majeur, c'est pas la même chose. Mais je viens de vous le dire à l'instant, à Bobigny et ailleurs, et dans la loi de 2016, on l'a fait, on a mis des tableaux de répartition, des grilles de répartition entre ce qui est un acte important et ce qui est un acte usuel. Par exemple, veiller à ce qu'un gamin aille se coucher, qu'il regarde la télévision, qu'il se lave les dents, qu'il aille à l'école le matin, qu'il aille se faire couper les cheveux, qu'il aille au cinoche, qu'il aille faire une partie de basket, etc. C'est les actes de la vie, qu'il aille chez le médecin pour des trucs banals, c'est les trucs de la vie quotidienne. En revanche, l'orientation scolaire, la sortie de territoire, les opérations importantes, c'est les actes importants. Donc, c'est les parents biologiques qui doivent exercer cela. En revanche, tous les actes, tout ce qui concerne la vie quotidienne, c'est le beau-père. Si on met en place cette répartition, le problème est résolu, la loi peut être votée en 10 minutes.
C'est-à-dire qu'il y a une confusion.
Serge Eiffel.
Non, arrêtez avec les beaux-pères et les belles-mères.
Il y a une confusion entre parenté et famille, si je peux me permettre, en France particulièrement. C'est-à-dire qu'on considère que les parents sont ceux qui établissent une filiation avec l'enfant, donc le père et la mère légale de l'enfant, que ce soit leurs parents biologiques ou pas d'ailleurs, mais enfin, ce sont le père et la mère légale. Il ne s'agit pas de revenir là-dessus, il ne s'agit pas de revenir sur la filiation. Il s'agit de comprendre ce que c'est qu'une famille. Et une famille, ce n'est pas la filiation. Une famille, ce n'est pas la parenté. Une famille, aujourd'hui, c'est un groupe de personnes qui vit ensemble et qui partagent des actes et des devoirs dans la vie quotidienne. Et que toutes les personnes qui partagent ces actes doivent être soutenues par d'autres textes que ceux qui portent sur la filiation, sur les droits et les devoirs de chacun.
Et on appelle ça la responsabilité.
C'est la responsabilité.
C'est absolument ça.
Dans une vie commune partagée.
Et on repart au standard du téléphone sonne. Paul est en ligne de Lons-le-Saunier. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne d'Inter, on vous écoute.
Merci. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel et bonjour aux invités et aux équipes de France Inter. Du coup, je suis Paul, j'ai 23 ans et j'expliquais tout à l'heure que mes parents étaient divorcés avant que j'aie 10 ans et que après mon père et ma mère avaient refait leur vie chacun de leur côté. Et je trouvais en fait que le fait d'avoir du coup quatre parents ou quatre personnes qui m'éduquaient, au quotidien, ça me donnait,
C'était mieux ou moins bien?
Bon, il y en a qui disent qu'il y a deux fois Noël, deux fois l'anniversaire, mais je pense que il faut pas s'arrêter à ça, mais ça donnait deux fois plus de personnalité, deux fois plus de caractère et deux fois plus de manière de voir la vie, de raisonner, et que...
Vous en avez pas souffert, quoi?
Si. Si,
quand
mais,
même.
Mais une fois passée la turbulence, on va dire, de l'adolescence, je me rends compte dans la vie de jeune adulte que c'est quand même quelque chose de stabilisateur et que ça me rend mature et que finalement ça me fait. Je trouve que la frontière devient poreuse entre ce que vous évoquiez juste à l'instant en termes de vocabulaire, parenté, famille, et même moi je le relirais presque à l'amitié, ou du moins les personnes qui ont de l'influence sur ma personnalité, sur ma manière de penser. Et que...
Mais ces adultes autour de vous, Paul, ils s'entendaient plutôt bien, c'est ça?
Oui, oui.
Il
n'y
a pas de conflit majeur.
C'est ce que Monsieur Rosenzweig disait au début, c'est qu'ils ont été à quatre intelligents, et ils ont coopéré sans rivalité. Et on n'a jamais avec mes frères et sœurs mis le pied dans le truc de les mettre en concurrence et mettre en compétition, parce que mes parents initialement nous avaient fait comprendre que c'était même pas la peine d'essayer. Voilà.
Merci Paul pour ce témoignage, Serge Eiffel, quand on
qui va dans le sens de ce qu'on est en train de... C'est pas si compliqué, une recomposition, c'est même quelque chose de très simple. Et je dirais que de plus en plus de familles, aujourd'hui, sortent de cette vision de l'opposition, de la rivalité, du conflit. Alors évidemment, au moment d'une séparation d'un couple, c'est jamais la joie, c'est jamais tout beau, il y a toujours à des petits moments de frottement. Mais très rapidement, enfin dans ce que je constate, la plupart des parents prennent le sens de leur responsabilité et le sens de la co-construction.
Marilus Iovanceno, vous organisez des groupes de parole au sein de votre association. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces groupes de parole?
Alors, moi, je ne reçois que les femmes, déjà. Hein, ça s'appelle le Club des Marâtres et pas autre chose. Et effectivement, les femmes qui viennent sont des femmes qui, pour la plupart, sont dans une très grande bonne volonté de vouloir que tout fonctionne bien et qui se retrouvent au bout d'un moment dans un marasme absolu où elles ne savent plus où elles en sont. Et dans ces groupes de parole, ce qu'on essaye de faire, c'est de tirer un fil pour leur permettre de retrouver de l'énergie, pour pouvoir poser des choses, trouver là où il y aura des choses à faire et puis peut-être là où il faudra laisser tomber, parce qu'elles peuvent pas guérir tout le monde. Moi, j'ai plutôt des grandes guérisseuses hein, au club, c'est plutôt des femmes qui veulent soigner tout le monde et guérir tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à trouver une place qui soit juste pour elles.
Jean-Pierre Rosenzweig.
Permettez de revisiter l'histoire, 20 secondes pour prolonger ce que disait Serge. Souvenez-vous, il y a 40 ans, des divorces qui étaient conflictuels. Et on a réussi, et moi je disais à l'époque, il faut que la loi vienne dire que lorsqu'on sort du bureau du juge, on continue à être parents. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Aujourd'hui, le divorce a été dédramatisé. Et bien, je suis d'accord avec Serge Eiffel. La recomposition familiale, dès lors que la loi sera venue faire son petit bout de chemin, qui vient dire les uns ont telle responsabilité, les autres ont telle responsabilité, on va apaiser ce type de situation dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt des adultes.
Une petite question, Serge Eiffel, à propos de la juste place. Ça, c'est un message d'Alexandre sur franceinter.fr. Il nous dit « Ma conjointe a déjà deux enfants, leur père est absent, nous les avons très souvent à la maison. Parmi ses enfants, son fils, est, fils de sa femme, est très attaché à moi et m'a même demandé si vous pouvez m'appeler papa. Je suis touchée, mais très mal à l'aise. Quelle est ma place dans son éducation ?» Qu'est-ce que vous lui répondez?
La place, c'est celle que l'un et l'autre ont envie de se donner, l'un par rapport à l'autre, et que il ne faut pas se défiler par rapport à un enfant qui choisit un beau-père comme étant un adulte de référence à un moment de sa vie. Alors, c'est pas pour ça qu'il doit se faire appeler papa, parce que là, effectivement, c'est sûrement créateur de très grandes confusions pour l'enfant. Mais en tout cas, assumer cette place de parent et cette place d'adulte vis-à-vis de l'enfant, je pense qu'il peut tout à fait le faire. Et je pense qu'il a intérêt à aussi créer un lien avec le père de l'enfant, et lui peut-être signifier au père qu'il y a des manquements, il y a des flottements, que peut-être ils pourraient ensemble trouver des solutions par rapport à cet enfant. Toujours cette vision, encore une fois, de la coparentalité, c'est-à-dire de la coopération.
On repart au standard de France Inter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « Telson ».
Cette fois, c'est Élise qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Élise.
Bonsoir à toutes et à tous.
On vous écoute.
Ouais, donc voici mon témoignage. Moi, j'ai 53 ans. J'ai vécu de 10 ans à 20 ans avec un beau-père qui a représenté la figure parentale, le père, parce que mon père était totalement défaillant, violent. Et voilà, et à 20 ans, terminé. Plus personne, rupture totale, plus jamais de nouvelles. C'est très violent. Et voyez.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
J'en suis encore émue. mais voilà, ma mère a divorcé.
Nouvelle séparation.
Et séparation.
Alors, merci beaucoup Élise pour votre témoignage. Je vous sens très émue, alors je ne vais pas vous poser d'autres questions à ce stade-là. Mais une petite question, je ne sais pas qui va pouvoir répondre. Il paraît que dans les familles recomposées, souvent, la présence d'enfants provoque de nouvelles ruptures. Serge Eiffel, vous avez des indications sur ce sujet?
La présence d'enfants, vous voulez dire
dans les familles recomposées.
De nouveaux enfants du couple?
Le fait d'organiser cette vie autour de nouveaux enfants.
Écoutez, ce qui est une recomposition ne peut tenir que, premièrement, s'il y a une coopération entre les parents, et deuxièmement, si les enfants arrivent à créer entre eux des liens de fraternité. Et s'ils en ont envie, et s'ils sont dans cette dynamique, si vous avez des enfants qui viennent de deux familles différentes et qui se bagarrent toute la journée, eh bien, la greffe familiale ne prendra pas. En général, c'est d'ailleurs par les enfants que passe la recomposition familiale. C'est-à-dire que les enfants sont plutôt avides de créer des nouveaux liens de fraternité, d'avoir des faux frères, des fausses sœurs qu'ils appellent très rapidement frères et sœurs. Et ce qui scellera le plus la famille, c'est quand les deux parents auront peut-être un enfant à eux, qui deviendra donc demi-frère de cet ensemble de frères et sœurs. Et là, vous aurez dans un même foyer, par exemple, trois enfants qui sont frères et sœurs, dont aucun n'a à proprement parler la même famille, dont aucun n'a la même filiation, et qui pourtant font partie de la même famille. Et c'est ça qui est intéressant à considérer, c'est de différencier l'objet famille en tant que tel de la question de la parenté et de la filiation. Or, et là je me tourne vers mon ami Rosenfeld, la famille c'est pas un objet juridique. Ça n'existe pas le mot famille dans les textes juridiques. On sait définir la filiation, on sait définir l'alliance, mais on sait pas définir la famille.
Peut-être heureusement, parce que ça a beaucoup bougé depuis Napoléon. Hein.
Ben justement.
Et si on l'avait défini en 1804, je ne suis pas sûr qu'on aurait évolué là où on a évolué.
Marie-Luc Ivanchino.
Oui, je voulais reprendre cette idée, effectivement. Alors, il y a eu des travaux...
Une union sur deux ayant formé une famille recomposée se défait à cause des enfants. Voilà, j'ai retrouvé les chiffres.
Moi, franchement, je trouve que dit comme ça, c'est une horreur absolue. Je pense qu'une union sur deux se défait parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place et qu'ils n'arrivent pas à reconstruire correctement.
Et ou à construire correctement.
Et qu'on part quand même avec beaucoup de handicap quand on est dans une famille recomposée. Et mais surtout, moi, je trouve ça terrible de dire à cause des enfants. J'ai été en famille recomposée et j'ai eu des enfants avec un monsieur, je me suis séparée. Et la question qu'on me posait, c'est à cause des enfants, tu t'es séparée. Et je trouvais ça, mais d'une horreur absolue. C'était vraiment, je ne pouvais pas entendre ce critère. Donc non, je ne peux pas entendre ça. Oui, les familles recomposées sont plus fragiles. Oui. Et elles ne sont pas plus fragiles à cause des enfants. Elles sont plus fragiles à cause des adultes qui ne se comportent pas comme ils le devraient pour laisser à chacun sa place.
Voilà qui est dit. On repart au standard. Cette fois, Aurélie est en ligne. Aurélie qui est médecin généraliste, c'est ça Aurélie ?
Tout à fait. Bonsoir, je suis très contente de vous parler. Et d'amener mon petit témoignage. Excusez-moi, j'éteins vous vite.
On ne vous entend pas très très bien, mais je pense que ça va aller. Vous appelez de Toulouse.
Alors, attendez. Est-ce que ça va mieux, là ?
Oui, ça va mieux.
Oui. Alors, voilà, je suis médecin généraliste et je voulais témoigner de ce que je constate au quotidien. Alors, vous parlez beaucoup de familles recomposées, comme s'il s'agissait de familles dans la durée. Et moi, ce que je vois, c'est beaucoup de couples qui se font, qui se défont. La maman qui amène son copain avec ses enfants un mois après leur nouvelle union dans le foyer, avec des enfants qui s'attachent très vite à ces nouvelles personnes. Et donc la question subsidiaire, c'est comment donner un statut à ces beaux-parents. Vous dites que dans le quotidien, il faut qu'ils puissent amener chez le médecin, notamment faire les courses occupées au quotidien, mais moi, à mon avis, c'est vraiment le parent qui doit être en première ligne. Et le beau-parent, c'est une famille recomposée, certes, mais voilà, est-ce que ça va durer ? Est-ce que vous le constatez en quotidien et comment vous vous dépatouillez avec tout ça et quels conseils donner ? Moi, j'ai l'impression qu'il faut que le parent lui-même soit vraiment un référent fort. L'enfant.
Voilà. Serge Effès vous répond, Aurélie.
Je pense, Aurélie, que c'est intéressant de revenir justement sur le témoignage d'Élise tout à l'heure, qui a été un peu suffoquée par l'émotion, et on la comprend parce qu'elle nous disait quelque chose de très précieux. Elle disait, de 10 ans à 20 ans, j'ai grandi avec un homme que j'ai considéré comme mon père et qui était mon beau-père, et à 20 ans, plus rien. Mes parents, ma mère et mon beau-père se sont séparés et cet homme a totalement disparu de ma vie. Et c'est ça, sur ça qu'il faut s'interroger. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que ce qui se passe, c'est que la relation entre sa mère et ce beau-père est devenue tellement conflictuelle que ce père a été éjecté et que pour la mère, il n'était pas question que sa fille puisse revoir cet homme-là ? Est-ce que cet homme-là était tellement blessé qu'il a préféré prendre le large ? Mais j'ai peine à croire ça parce que je pense qu'un homme qui s'est investi pendant 10 ans auprès d'une jeune fille et qui a été reconnu comme son père, il a plutôt envie de continuer cette relation. Et c'est pour cela que conforter les droits et les devoirs des beaux-parents de par la loi, ça donne une légitimité à ces relations. Sinon, on est dans le pur affectif et les affinités électives, on sait ce que c'est. Un jour, c'est l'amour, un jour, c'est la haine, et c'est comme ça.
Si on est uniquement dans les arrangements en famille, ça ne va pas aller... Très bien.
Il n'y a pas de recette miracle. C'est pas facile pour un enfant de vivre la séparation de ses deux parents. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai connu dans mon bureau une histoire que je raconte dans le bouquin d'une gamine qui a 4 ans et qui se met sur les deux accoudoirs des deux fauteuils qui sont en face de moi et qui tient avec sa main gauche son père, avec sa main droite sa mère. Et il était en train de me dire à 4 ans, monsieur le juge, je veux pas que mes parents se séparent. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a par définition dans la séparation, dans la reconstruction de la douleur. Il y a de la chaleur, dans tous les sens du terme, au sens physique du terme, et donc il peut y avoir de la douleur. Donc les réponses données par la loi ne suffisent pas, mais elles sont indispensables, mais elles ne suffisent pas. Alors je prends un tout petit peu de recul pour répondre à votre question, parce qu'il faut toujours revisiter l'histoire pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Nous avons eu ce problème, il y a 40 ans, dans les familles de l'aide sociale à l'enfance, avec des familles qui étaient, avec des enfants qui étaient en famille d'accueil, et qui devaient rejoindre leur famille biologique, mais elles avaient vécu pendant 5 ans, 10 ans, avec une famille d'accueil. Il y avait un lien qui s'était créé. La famille d'accueil n'est pas seulement qu'une professionnelle qui accueille, il se crée des choses. Nous avons fait en sorte, dans la loi de 1984, de veiller à ce que les liens qui ont pu se créer entre la famille d'accueil et l'enfant puissent persister. Bien, pour répondre à la jeune femme qui nous parlait tout à l'heure, il eût fallu dire dans la loi, mais malheureusement ce n'est pas le cas, que les enfants ont le droit d'entretenir des relations avec ceux qui leur sont chers, que les parents soient mariés, pas mariés, divorcés, séparés, reconstruits. C'est ça qu'il faut venir dire. Et après, il faut effectivement, petit un, clarifier les responsabilités comme je disais tout à l'heure, acte de vie courante, acte important, et il faut surtout admettre politiquement, c'est-à-dire au sens large de la société, je rejoins Serge, qu'il y a plusieurs filiations désormais. Il y a la filiation biologique et génétique, il y a la filiation gestatrice, la femme qui porte l'enfant, il y a la filiation sociale, celle qui est reconnue comme étant la mère, il y a la filiation juridique, et il y a la filiation affective. Les choses sont, étaient simples pour Napoléon. La femme qui était mariée faisait l'amour, accouchait d'un enfant, était la mère. Aujourd'hui, il y a des déconstructions possibles. Toutes ces filiations se valent. Il ne faut pas en privilégier l'une par rapport à l'autre. Il faut articuler ses responsabilités avec l'une et avec l'autre. Ben, on est encore loin du compte. Regardez ce qui s'est passé dans le quinquennat précédent. On a été incapable d'aborder la question de la responsabilité parentale. On a voulu aborder la question de l'autorité parentale. Ce qui importe aux adultes, c'est avoir des enfants. Quel est le grand débat d'actualité? C'est est-ce que les homosexuels vont pouvoir avoir des enfants? Et non pas comment on va exercer ses responsabilités. C'est le grand débat politique du moment. Les droits des enfants, on n'en a rien à cirer.
Et aujourd'hui, on n'a même pas de ministère de la famille.
Et aujourd'hui, on n'a pas de ministère de la famille, ni de l'enfance, ni de rien. Mais ça, c'est pas le problème.
Des familles.
Des familles. En plus, il lui fallu dire ministère des familles. Et en fait, il lui fallu dire ministère de la condition familiale. Parce que le problème des adultes d'aujourd'hui, y compris en famille recomposée, c'est à la fois de gérer sa vie personnelle, sociale, affective, sexuelle, et dans le même temps, gérer les anciens et gérer les enfants. Et c'est tout le problème des responsabilités autour de la famille, sans que la famille en tant que telle soit définie, sauf que pour beaucoup de gens, la famille, c'est le mariage. Ben non.
On va à Versailles, où nous attend Thibault. Bonsoir Thibault.
Et bonsoir.
On vous écoute.
Oui, je vais essayer d'être concis. Donc, par rapport à l'émission d'il y a quelques temps sur les couples libres, en fait, bref, nous étions permis avec mon ex-compagne de fonctionner librement, sauf qu'avec un de ses amants, elle a tenu une relation sur la durée de, qui a duré plusieurs années, les sentiments sont venus, et donc elle a fini par partir avec lui. Maintenant, on est en garde alternée, ça se passe vraiment bien par rapport aux enfants, mais ce qui, pour moi, est très dur à vivre dans l'acceptation du beau-père, c'est qu'il est acteur aussi quelque part de notre séparation et que pendant 2 ans c'était promis que justement que le socle familial ne serait pas mis en cause, qu'elle ne partirait pas et que donc voilà, donc je sais pas si je suis assez clair, mais c'est ça pour moi qui est dur à accepter. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour les beaux-parents, malgré tout je sais pas comment m'inscrire là-dedans dans l'acceptation vu que l'histoire est arrivée avant la séparation quoi.
Je crois que vous vous êtes fait comprendre, Thibault, parce qu'ils sont tous en train de réagir là, sans même attendre qu'on leur donne la parole. Serge Fèze.
Oui, on entend un homme blessé dans l'amour qu'il porte à une femme, un homme qui a été abandonné et qui donc se trouve dans une situation légitime de jalousie par rapport à un autre homme. C'est des histoires d'adultes. On a à se confronter à ça en tant qu'adulte. On a à penser nos blessures en tant qu'adulte. Mais quand on pense intérêt de l'enfant, eh bien, l'intérêt de l'enfant, il n'a rien à voir avec les blessures de jalousie ou de rupture d'un adulte. Il faut pouvoir absolument dégager ces deux états de fait. Il faut que les adultes aient justement le sentiment de leur responsabilité. Ce dont on parle ici, c'est des besoins des enfants, des droits des enfants, et c'est eux que nous avons à protéger avant tout.
Marie-Luce Jovanchenot, c'est ce que vous leur dites à toutes ces femmes qui viennent
vous
voir?
Oui, alors en plus plus, alors je vais rajouter un degré, hein, parce que nous, les femmes, nous sommes forcément responsables, les belles-mères, nous sommes forcément responsables de la rupture. Hein, ça fait partie du package que l'on porte, et c'est d'où le club des marâtres. Mais oui, effectivement, c'est... Elles ne sont pas responsables, et il y a des choses qui sont à gérer, mais au niveau de l'affect de chacun. Enfin, je ne suis pas psy et je ne vais pas prendre votre place, mais en tout cas, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'affect, et il faut apprendre à faire ce pas-là. Ce n'est pas toujours facile, je l'entends bien.
On va prendre un tout dernier appel, celui d'Odile, qui nous appelle de je ne sais pas où. Odile a disparu. Ah. C'est bien dommage, mais c'est pas grave. Jean-Pierre Rosenzweig.
Moi, je suis plutôt optimiste, hein, parce que par définition, on voit toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais globalement, ça s'est banalisé. Souvenez-vous, il y a 50 ans, les gamins qui se faisaient casser la figure, pour parler crûment, dans la cour d'école parce que les parents étaient divorcés. Mmh. Les gamins, moi je me souviens, dont on plaisantait parce qu'ils avaient plusieurs noms sur l'interphone, etc. etc. Mmh. Les choses se sont banalisées. Banaliser ne veut pas dire qu'elles doivent être diluées et que ça doit être l'anarchie n'importe comment. Le mariage est moins important, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire la forme, est moins important aujourd'hui dans la famille que le contenu. C'est le contenu qui doit nous amener à réfléchir, les responsabilités. Et c'est là où il faut absolument que le législateur, non pas fasse une loi sur la garde alternée, comme on a voulu le faire là, en catastrophe et d'une manière tellement idiote qu'on s'est planté.
C'est une proposition de loi.
Hein, ils se sont plantés en 48 heures. D'abord, déjà, ils n'avaient pas compris que le mot garde n'existait plus depuis 20 ans. Alors, déjà, ils avaient tout faux. Mais quelque part, c'était la revocation des hommes contre les femmes. Ça ne doit pas être le débat. La question, c'est celle de la condition parentale. Les enfants ont droit à des parents qui exercent pleinement, des adultes, pardon, qui exercent pleinement leurs responsabilités. Parmi ces adultes, il y a les parents biologiques et il y a d'autres personnes qui peuvent être les beaux-parents, qui peuvent être les grands-parents, qui peuvent être les travailleurs sociaux ou des enseignants. Il faut clarifier les responsabilités. Il faut une loi rapide, celle que je disais. Toute personne en charge d'un enfant doit exercer les actes de la vie quotidienne.
On va terminer ce dernier tour de table.
Avec cette conscience que la recomposition, ce n'est pas que des situations de rupture, oui, de couple et de recomposition qui suivent. Juste avant de venir vous voir, dans mon bureau, j'avais un couple d'hommes et une femme qui, tous les trois, souhaitaient mettre en place un processus de coparentalité. Les deux hommes sont mariés et cette femme veut avoir un enfant et souhaite avoir un enfant avec un des partenaires de ce couple. C'est des modes, ce sont des nouveaux modes de création familiale qui, d'emblée, se situe sur un mode de recomposition et je pense qu'ils vont être de plus en plus nombreux.
Alors vous allez avoir du travail pendant 20 ans ou 30 ans.
Mais vous aussi, mon cher, parce qu'il va bien falloir que la loi suive ces situations-là.
Vous nous avez expliqué ça tout à l'heure. Vous étiez en tant que juge à un poste d'observation des évolutions de la société. Vous n'allez pas pouvoir les freiner. Ces évolutions, elles sont là. C'est une réalité. Le mot de la fin pour vous, Marie-Luce Yovanchenko.
Oui, moi j'ai envie de dire que les familles, alors qu'on appelle recomposées, finalement c'est un grand espace de créativité et il y a beaucoup de bonheur à trouver. Pour corroborer le témoignage qu'on avait tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup de bonheur à trouver si chacun y met de la bonne volonté.
Voilà, et donc une loi absolument, Jean-Pierre Rosenzweig. Ah oui. Nos voisins, visiblement, on n'en a pas du tout parlé. Le Royaume-Uni, l'Allemagne ont légiféré dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé
un petit peu.
C'est pas forcément
c'est du
mieux.
Remplacement.
C'est pas forcément c'est ce qu'il faut faire.
C'est du remplacement. C'est-à-dire que l'un perd l'autorité parentale à la place de l'autre. Donc... ça ne correspond pas à la réalité du besoin des enfants qui ont besoin effectivement d'être consolidés dans leur vie de famille, j'allais dire à plusieurs étages ou puzzle.
Voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la fabrication.
Voir en Allemagne ou en Angleterre, faisons nos textes par rapport à nos valeurs. On a des gens qui réfléchissent, des praticiens, on peut avoir de bons parlementaires s'ils travaillent, faisons nos lois à nous.
Jean-Pierre Rosenzweig, vous me semblez tout indiqué pour aller vous occuper de cette situation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Rendre justice aux enfants, c'est aux éditions du Seuil ». Je vais essayer de retrouver le titre de vos livres à chacun. Marie-Luce Yovanchenko, « Belle-mère ou marâtre », c'est aux éditions de l'Archipel. Serge Eiffez, « La fabrique de la famille », c'est chez Kairos. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à tous les trois. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ou écrits sur franceinter.fr. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer ce 18-20, à la programmation musicale ce soir, Djoubaka, à la technique, Tristan Gratalon, Loïc Frapsos, Arnaud Caillé, Florent Beauvallet. Merci aussi à Antoine Liffaut et à nos jeunes amis standardistes. Vous écoutez France Inter, il est 20h.